Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Ils sont incorrigibles, les papous. Non contents de se réunir en studio, bien au chaud à la maison de la radio, pour jouer ensemble et vous distraire ensuite lors de la diffusion le dimanche sur France Culture, ils s'échappent de temps à autre, ils quittent Paris pour courir au-devant de leur public. Françoise Tressart, heureusement, est là pour les tenir. Enfin, ce n'est pas exactement ce qu'elle cherche, Françoise Tressart. Au contraire, et tant mieux pour nous. C'était sur France Culture le 28 novembre 2010, première émission d'une série de deux, enregistrée à Romans, dans l'Isère.
Bonjour, Françoise Tressart et la bande des papous du dimanche. Au menu de notre récréation littéraire, le roman des papous, première partie, une émission enregistrée en public au théâtre Jean Villard de Romans-sur-Isère le samedi 20 novembre dernier. Nous étions invités à fêter les 10 ans du festival Roman à Romans. Un nom de ville si évocateur méritait bien son festival. La belle salle, toute de velours rouge du théâtre, était comble. 500 spectateurs, auditeurs ou nouveaux venus qui ont découvert ce jour-là les papous dans la tête. Et c'est toujours un plaisir émouvant pour des gens de radio d'accrocher des visages sur ce mot mystérieux, auditeur, avec sa variante nouvelle auditeur. La soirée était l'occasion, le nom de Romans-sur-Isère oblige, de jouer avec le romanesque, personnage, grande fresque littéraire, et de traiter aussi de la chaussure qui a fait vivre la région pendant si longtemps et continue de régner sur la ville avec son musée magnifique, une merveille. Sur la scène du théâtre Jean Villard, Odile Conseil, Patrick Beignet, Eva Almassy, Hervé Le Tellier, Jacques Vallée, Patrice Minet, Lucas Fournier et Patrice Caumont, prêts à en découdre avec toutes les contraintes littéraires papous possibles. Texte écrit parfois devant le public dans la chaude ambiance du théâtre Jean Villard. Un soir à Romans avec les papous de France Culture, c'est tout de suite. Pour lancer le roman des papous, quelques vers, quelques devinettes, quelques refrains qui devraient vous donner envie de lire ou de relire certaines grandes œuvres de la littérature. Patrice Minet.
Robinson Crusoé. Un naufragé qui surgit de la mer, nage en dos crôlé vers une terre. Son nom, il le signe sur le sable, à la pointe du doigt de pied, d'un C qui veut dire Crusoé. Zoé, Zoé, ton île, tu vas y passer bien des étés. Zoé, Zoé, et bien des hivers solitaires. Zoé, Zoé.
Patrick Beignet.
Oui, c'est une petite énigme, donc d'un personnage qui parle. Regardez-moi, regardez mieux, et vous en croirez vos oreilles, à défaut d'en croire vos yeux. Voyez en moi une merveille. Regardez bien, regardez mieux. Cela vous paraît impossible, mais vous avez bien sous les yeux, en personne, l'homme invisible. Oh.
Odile Conseil.
Moby Dick. Ils nous font tourner la tête, à se courir après ainsi. Le boiteux et sa grosse bête, ils n'en ont jamais fini. Sur les océans du monde, elle fuyante et lui hargneux. Moby Dick et sombre Aqab se poursuivent à qui mieux mieux. Elle lui a fait perdre une jambe, sa baleine à lui, c'est elle. Mais un jour et pour toujours, il sera lié à elle. La 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 li la 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 la.
Monsieur Jacques Vallée.
Constance s'était étiolée auprès d'un mari peu zélé. Pour que les choses se délassent, elle s'adresse au garde-chasse. Et ses leçons d'anatomie ont guéri la belle endormie. Dans les frissons et les fougères, elle en devint vive et légère. Ah, c'est un remède parfait, l'amant de Lady Chatterley.
Hervé Le Tellier, c'est à vous.
Si vous aimez les singes, les jungles, les éléphants, alors vous aimerez ce gros roman Tarzan. Si vous en avez marre du métro, du bureau, vous lirez dans l'extase Edgar Rice Bureau. Vous tomberez dingue de Jane, une jolie fille, dans ce livre étonnant de fantasmagorie, criant dans la nuit noire du fond de votre lit.
Eva El-Massi, c'est à vous, avec quel roman ?
Anna Karenine. Ah. Anna Karenine, la belle héroïne, rencontre l'amour fou en gare de Moscou. 700 pages plus loin, elle reprendra le train en gare de Moscou, mais pour se rompre le cou.
Lucas Fournier, on revient chez nous.
Charade. Ouais. Mon premier est sucré comme un calisson. Mon second, plus grossier qu'un sale juron. Mon troisième, on s'en traite en pays gascon. Mon tout, roman d'un drame en Algérie, un étranger qui vient et tue.
C'est.
Vous pensez à Camus, je parie ?
Ouais.
Et non, non, c'est un malentendu. Sucré comme un calisson. Ben, c'est la tarte tatin. Plus grossier qu'un sale juron de ta race. Et on s'en traite un pays gascon, con. Roman d'un drame en Algérie, un étranger qui vient et tue, tarte tatin de ta race, con.
À vous de refermer le bouquet, Patrice Comon.
Othello. Tom-tom, tom-tom, un dur à cuire, comme Othello, qui serait cocu, sans le faire exprès. Plan à la gomme du vil Iago, de faux amis, c'est plein l'anglais. Othello, et Desdémone, qui est si jolie, comme son mouchoir de blanc brodé. Dans un transport de jalousie, faut qu'il l'étrangle avant de se tuer. Othello, c'est extrait d'Othello.
Le clavecin bien trempé au jeu des homophonies approximatives. Il s'agit d'écrire des histoires qui commencent sur une phrase imposée et qui s'achèvent sur une phrase homophonique de la première, c'est-à-dire une phrase qui, quand elle est prononcée vite, a à peu près le même son, mais évidemment pas le même sens. Alors, je vais donner un exemple pour les très peu nombreux parmi vous qui ne seraient pas familiarisés avec les homophonies. C'est un exemple que j'emprunte à Patrice Minet. Aimons-nous sous les palétuviers, aimons gnou sous les pavés lutins. C'est joli, hein ? Patrick Beignet, je vous ai demandé de commencer votre récit par le bruit et la fureur. Alors évidemment, c'est un jeu qui met en avant l'histoire, avant tout.
Le bruit et la fureur, c'est la terrible expression du Macbeth de Shakespeare qui voit la vie comme un conte plein de bruit et de fureur raconté par un idiot. Ça me paraît une vue un peu trop noire de l'existence. Je préfère tempérer cette noirceur par les contes de fées, moins sinistres que Macbeth, même s'ils ont leur part d'amertume, comme celui que je vais vous raconter. Yvonne était étudiante en sociologie. Elle n'était ni très belle, ni très intelligente, sans quoi elle n'aurait pas fait sociologie. Mais elle avait quelque chose d'exceptionnel. Ses mollets étaient d'une très grande beauté, d'une blancheur d'albâtre, d'un galbe admirable. Mais Yvonne avait reçu une éducation très stricte et cachait obstinément ses mollets sublimes. Un jour, tandis qu'elle lisait un livre de Pierre Bourdieu dans sa chambre, on frappe à la porte. Yvonne va ouvrir, croyant que c'était une copine. Or, pas du tout, c'était un jeune homme blond. « Bonjour Yvonne, dit-il, je suis le prince Sébastien de Courlande et j'ai entendu parler de toi par mon cousin, le grand-duc Serge. » Ce nom ne disait rien à Yvonne, qui laissa le prince poursuivre. « Regarde ceci, Yvonne, dit-il. » Et il tira de sa poche un objet doré dont sortait une douce musique. « C'est une pomme magique, dit le prince. » Elle m'a été donnée par le meilleur sorcier de Courlande. Grâce à la pomme magique, tu réussiras sans problème tes examens de sociologie. Même l'UV de socio-ethnologie du monde contemporain? Oui, même celle-là. Ensuite, tu mèneras exactement la vie que tu voudras, car cette pomme magique donne à qui la possède non seulement les UV de sociologie, mais aussi la fortune et le bonheur. Fabuleux, dit Yvonne. Et que dois-je faire pour que tu me donnes cet objet merveilleux ? C'est très simple, dit le prince Sébastien. Il suffit que tu danses pour moi le menuet des Bacchantes. Yvonne blêmit. Le menuet des Bacchantes est une danse du XVIIe siècle, très célèbre en Courlande. Elle se danse comme un menuet ordinaire, mais à la fin, la danseuse doit longuement montrer ses mollets. Or, timide et introvertie, Yvonne se sentait incapable d'exhiber ses beaux mollets d'albâtre. Le prince insista. Le cadeau merveilleux lui permettrait de ne plus jamais lire un livre de Pierre Bourdieu. Tout en ayant ses examens, la pomme magique, qui émettait toujours la douce musique, qui était précisément le menuet des Bacchantes, la pomme magique brillait de son or subtilement travaillé. Mais la timidité d'Yvonne la tétanisait, la rendait incapable de choisir entre le fruit et la pudeur.
Oh, c'est joli! Le bruit et la fureur, le fruit
et la pudeur.
Et la pudeur, c'est magnifique ça. Magnifique. Odile Conseil, je vous ai imposé, comme début, une maison de poupées.
C'est exact. Une maison de poupée, c'est ce que promettait l'annonce. Et en effet, Madame Lecomte, en son fort intérieur, se disait que cette maison était charmante, proprette, coquette, pimpante, guillerette, appétissante, craquante. Au moment où cette histoire commence, face à la maison, elle cherche tous les adjectifs qu'elle pourra énumérer pour convaincre son mari que cette fois, c'est la bonne. Monsieur Lecomte, justement, il est là, à côté de Madame. Il regarde, contemple, observe, évalue, jauge, il se méfie. C'est qu'ils en ont visité des demeures, des castels, des manoirs, des lofts, des pavillons, des villas, des mâts, des bastides, des longères, des bungalows. Tiens, pas plus tard que la semaine dernière, la villa Pirouette-Cacahuète. Tu parles d'une affaire en carton qu'elle était la maison. Et les escaliers en papier. Il connaît la chanson et il ne faut plus lui raconter d'histoire à monsieur le comte. Il pourrait vous parler de la maison Lego, faite de briques et de brocs. Ou cette maison bleue, adossée à la colline, où l'on vient à pied, où l'on ne frappe pas. Mais ceux qui vivent là ont jeté la clé, résultat, on ne peut plus rentrer. Et puis attendez, il y a eu aussi la petite maison dans la prairie, bien trop petite, et la maison Tellier, quel bordel là-dedans. Et la maison des... Chérie, chérie, c'est Madame Lecomte. Chérie, regarde comme cette maison semble charmante, proprette, pimpante, guillerette, appétissante, craquante. As-tu vu ces murs couleur pain d'épices, son toit en feuilles de palmier? Ah, comme elle est chou, on en mangerait. Et là-dessus, Madame Lecomte se précipite vers la maison. Elle se met à croquer, à lécher, à susauter, à mâchouiller, à slurper, à miam-miamer. Monsieur le comte hausse les épaules, soupire, se mouche, essuie ses lunettes, ajuste son chapeau, enfonce ses mains dans ses poches, lisse sa moustache. Ça va, Simone, j'ai compris qu'elle te plaisait, mais ce n'est pas une raison d'y goûter.
Ah! Ah oui. Ben oui, il faut un petit temps pour être sûr. Hein. Ah ben oui. Une maison de poupée,
une raison d'y goûter.
Ben, elle est presque parfaite. Hein. Je ne sais même pas Magnifique. Pourquoi je dis presque.
Magnifique.
Patrice Comon, c'est à vous pour les contes de Canterbury. Alors, il est très important de se mettre d'accord sur la prononciation de Canterbury, parce que de là dépend l'homophonie. Vous dites Canterbury, vous
non,
dites Canterbury
dis...
ou non. Canterbury.
Canterbury.
Canterbury. Oui, parfait, hein, il est très british.
Quand dans le Kent, oui.
Voilà, alors on vous écoute. Et on guette l'homophonie, évidemment.
Elle est à la fin.
Merci de respecter le jeu, Patrice.
Les contes de Canterbury, pour lui, ce n'était pas un livre, mais des millions de livres en dépôt à la Canterbury Bank, en face de laquelle il planque en Burberry sous la pluie. Dans le civil, il est tueur à gages assermenté. Et le hold-up n'est qu'un estrac, car pour leur retraite, les tueurs ne cotisent pas autrement. Lui, c'est Kant. Non pas le sinistre Emmanuel, mais Alberto Kant, dit Lato Kant, vu qu'il arbore une montre en or à chaque poignet et un chronomètre au gousset. Ponctuel jusqu'à l'obsession, il a une trotteuse dans la tête et des filles sur le trottoir, car pour le cash, les tueurs n'ont pas d'autres distributeurs.
Comme c'est élégant.
C'est la vie.
Oui, c'est vrai.
À Londres, Kant tire toujours à l'instant précis où l'aiguille des minutes arrive sur 21. Est-ce à cause du 421, du blackjack? Du 21, le bus que prenait sa mère tous les soirs pour le quitter? Ou parce qu'à 21 ans, il en prit tout autant, mais ferme? Lui justifie ainsi sa numérologie. On ne tue pas en 20 et à 22, voilà les flics. Comme il dit, si l'on tue sans raison pure, c'est pour garder la pratique. C'est impératif. Et là-dessus, il est catégorique. Dans le Kent, curieusement, la pluie donne soif. Et donc, notre Alberto, tout trempé, quitte sa planque pour le pub. Il empoche un contrat sur une Irlandaise, Miss Sally Tilbury, dangereuse rouquine et redoutable pickpocket. Il doit, selon le bon de commande, l'effacer sans délai, puis vider la corbeille en mode sécurisé. Côté rousse, Kant va d'abord finir sa bière, puis une autre. À trop aligner les pintes, ça tangue. Il s'agrippe à son houblon comme marin au hauban. « Fuck !» crie Alberto. En français, petite voile triangulaire d'avant. Car Sally Larousse est là, juste à côté. C'est sa cible. Comme aux fléchettes, il suffit de viser. Mais boire ou refroidir, comme dit Shakespeare, faut choisir. Le pro n'assassine pas en état d'ivresse. Par réflexe, la toquante vérifie l'heure. Et là, non seulement phoque, mais phoque again, misaine et perroquet, c'est tout le gréement qui s'affale en juron. La Miss Tilbury, en pickpocket virtuose, avait subtilisé toutes ses montres et, pis encore, son flingue. Cauchemar à la Bradbury, il va découvrir le commerce équitable du flingueur flingué. Et même beurré, comme un petit Cadbury, il commence à sentir sa dernière heure déjà très très entamée. Les yeux noirs Guinness le fixent. Viendra la mort, et elle aura tes yeux, Udipe Pavez. Mais lui, il veut seulement savoir à quelle heure. Montre en main et flingue dans l'autre, Sally le met en joue. Et c'est précisément sur ses joues d'Irlandaise qu'il se met à compter les taches de rousseur. Ce n'est pas facile de chiffrer les effets lides sous l'effet conjugué de la bouteille et d'un magnum. Hébété, ahuri, il arrive à 21. C'est leur pile, mais il fait face. Quand le propre flingue et les montres de Kant l'enterrent beurré.
Donc, résumé, les contes de Canterbury l'enterrent.
Les montres de Kant l'enterrent beurré.
C'est très bien ça. Très très bien. Vous pourriez résumer l'histoire en un refrain?
Il peut le faire.
Ah, oh, ben c'est bien ça. Allez.
Adieu, gentil bandit. C'est la salie qu'a ton flingue, pauvre Cantahuri. Adieu, Canterbury. Soyons ponctuels, c'est l'heure pour toi de dégriser. Quand t'as compté 21 piles, elle t'enterre. Adieu, Canterbury.
Bien, je vous propose un jeu littéraire qui sera entièrement improvisé sur scène. Ça va concerner Hervé Le Tellier et Patrice Minet. Il s'agira pour eux de réécrire un certain texte de Max Aube, extrait de ses Crimes exemplaires, selon le style qu'ils auront tiré au sort dans ce chapeau. Vous voyez, il y a des styles. Alors, ils ont un petit air dégagé comme ça, mais je vous assure qu'en public, dans l'ambiance du théâtre, c'est pas si facile et que le stress monte. C'est vrai, Hervé ?
Je suis tendu comme un string.
Bien. Alors, on va d'abord écouter le texte de base. Patrick Beignet.
Si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis un homme perdu et je devais me lever à 7 heures. Il était 2 heures et ils ne partaient pas. Ils étaient vautrés dans les fauteuils, béats. Et Dieu sait que je n'avais pas pu faire autrement que de les inviter à dîner. Ils jacassaient comme des pies, se relançaient l'un à l'autre la conversation et je devais porter verre de cognac et autres tasses de café. Soudain, il lui vint l'idée, à elle, que nous pourrions prendre un peu plus tard une soupe à l'ail. Ma cuisinière est très réputée. J'en pouvais plus. Bien entendu, j'aurais pu agir comme un grossier et leur dire de s'en aller. Mais c'est pas dans ma manière. Ma mère, qui fut veuve très jeune, m'a inculqué les meilleurs principes. Je n'avais qu'une seule envie, dormir. Et le reste m'importait peu. Je n'avais pourtant pas sommeil. Je pensais seulement à l'envie que j'en aurais le lendemain. Mon éducation m'empêchait de simuler ces bâillements qui sont le moyen habituel aux gens ordinaires. Et vous par-ci, et vous par-là, et ça, et le reste, le gin remis, les échecs, le poker, Ginger Rogers, Lana Turner, je déteste le cinéma. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, et vous, et vous, et le président, et le ministre, et l'opéra, je déteste l'opéra. Et le cachemire anglais, et le gazon, les choux, et ce poison qui ressemblait tellement au cognac.
Voilà, c'est un texte inquiétant. Max Aube prétendait qu'il n'avait rien inventé. Il s'était contenté de rajouter son humour noir à des histoires que des vrais criminels lui avaient racontées. Alors, Hervé Le Tellier, Patrice Minet, je remue. Je vous rappelle la règle du jeu. Si vous refusez le premier style, si vous refusez le deuxième style, vous devrez prendre le troisième. Il n'y aura pas de retour en arrière. D'accord. Exprimez-vous, Hervé.
Alors non, je suis pas d'accord. Bon.
Allez, bonne chance.
Le premier. Non, je ne le prends pas. L'homme qui ne trouvait pas ses mots.
Ça vous plaît pas?
Non, je vais les trouver.
Réfléchissez un peu
même. Je ne le prends pas.
D'accord. Deuxième chance.
Carte postale.
Ah, j'ai mis des S à carte et à postale. Très bien.
Bon, je vais le prendre.
Oh, il n'est pas téméraire.
Bon, très bien. Alors là, je ne le prends pas.
Pardon, mais il est courageux, oui.
Histoire russe à rebondissement.
Repliez les styles, remélangez Odile et... Offrez le chapeau à Patrice Minet. Donc, histoire russe à rebondissement. Je note.
Moi,
Patrice
Minet, prendre,
bonne chance.
Je voulais prendre histoire russe à rebondissement.
C'est raté, Minet.
Alors, j'en prends un autre.
Oui.
Style à la Jules Verne.
Oui.
Évidemment, non.
Bah pourquoi? Vous ne prenez même pas le temps de réfléchir.
Si, j'ai réfléchi.
D'accord. Vous êtes très rapide.
Ah, je réfléchis vite.
Bon, alors ensuite.
Alors, il y en a deux, hein.
Oui, il y a carte postale dedans.
Oui. Ça n'est pas un cadeau non plus. L'homme qui ne trouvait pas ces mots.
Alors, oui ou non ?
Oui. Oui, parce que ça, ça me ressemble.
Allez, allez travailler. Tenez, je vous donne le texte de base. Voilà. Et ils vont travailler donc devant vous en un certain temps, et c'est pas si facile, croyez-moi. Eva Almassi, maintenant en piste, pour nous raconter à la première personne du singulier un état de choses. Travailleur manipulé, certes, comme toutes les choses, mais cet objet a quand même un certain pouvoir. Alors, qui est ce jeu au nom de qui vous parlez, Eva Almassi ?
Je suis une télécommande universelle à infrarouge.
Ben, vous ressemblez beaucoup. C'est criant. Et cette parole du jeu se présente sous quelle forme ?
Je vais chanter. J'espère que vous allez chanter aussi un peu avec moi.
Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'il chante ?
Bah, si vous reconnaissez l'air, toutefois.
Bon, d'accord. On verra. C'est sur quel air, Eva ?
Bah, justement.
Ah, vous voulez vraiment nous tester ? Bon, tester notre culture. OK.
Je change de chaîne, je change le monde, on voyage sur mes ondes. J'ai envie de toujours faire un peu de magie. Un peu de magie et ça va mieux. Je vous en mettrai plein les yeux. Il suffit de m'attraper pour tout zapper. Moi, la télécommande, ta-da-da-da-da, je suis toute puissante, ta-da-da-da-da. À midi ou à minuit, plus jamais on s'ennuie, il suffit de me toucher pour tout changer. On a le choix de mes boutons, je mets plus fort ou je coupe le son. On m'a toujours sous la main du soir au matin. Je donne des ordres à volonté à la télé, au DVD, et on n'a même pas besoin de se lever. Moi, la télécommande, ta-da-da-da-da, je suis toute puissante, ta-da-da-da-da. Je dirige et on me suit à distance, on m'obéit. La télé-réalité, c'est ma vérité. Sans le secours de mes infrarouges, le temps se fige, rien ne bouge. Pense à remplacer mes piles, c'est mon sex-appeal. Mon sex-appeal ou face au choix, les podcasts, les MP3. Les CD et la radio, c'est ma libido. Moi, la télécommande, ta-da-da-da-da. Je suis toute puissante, ta-da-da-da-da. Baguette magique du monde moderne, si je me bloque, tout paraît terne. Je suis la fée de l'audimat, on tâte mes dictates. Mais l'autre soir, on m'a égarée sous un tas de papiers. Je ne pouvais pas crier « Et où je suis là ?» On me cherchait, je paniquais, le film d'Arte s'éternisait pendant que le match se perdait sur TF1. Moi, la télécommande, ta-da-da-da-da, je suis toute puissante, ta-da-da-da-da. Pour fuir les pages de pub, ne pas manquer la cage du but, j'offre tout ce que vous voudrez si vous me retrouvez. Heureusement, tu m'as déniché, caché sous le canapé. Tu pianotes et je pilote, on papillonne, mais tu t'endors. Je te dis ma règle d'or, il te suffit de m'étreindre pour tout éteindre. La la, la 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 la, la 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 la. Un bouton, deux boutons, trois boutons, quatre boutons, cinq boutons, six boutons, jusqu'au bout de la nuit.
Je vous propose maintenant une partie d'experts contre faussaires. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y a quelques jours, nous nous sommes réunis en studio. Il y avait Eva Almassi, Odile Conseil, Jacques Vallée, Patrick Beignet et moi. Et Eva nous a fait part de son choix d'une certaine œuvre. Alors cette œuvre, elle nous l'a un petit peu résumée, et puis elle a indiqué avec ses mots à elle l'ambiance du début, des quelques lignes du début, et l'ambiance des quelques lignes de la fin, pour que Odile, Jacques et Patrick puissent écrire un habile pastiche de cet auteur. Parce qu'évidemment, Eva Almassi a choisi un auteur qui a du style. Un style qu'on peut imiter si on a un tant soit peu lu, on a une idée de ce style. Alors, on va d'abord vous révéler de quel auteur il s'agit, puis je vous expliquerai le reste de la règle du jeu. Je vous présente nos futurs experts, Patrice Caumont, Lucas Fournier. Bonjour. Ils sont comme vous, ils ne sont au courant de rien. Donc, on va reprendre la présentation de l'œuvre avec Eva Almassi. Quel texte avez-vous choisi pour notre jeu aujourd'hui, un roman?
Alors, à roman, tout spécialement, je choisis un texte de Louis Aragon. Parce que Aragon a vécu pendant la guerre avec Elsa Triolet, tout près d'ici à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. C'est vraiment tout près. Où il écrivait sous le pseudonyme qui va beaucoup nous parler ce soir en particulier. Donc, son pseudonyme était Arnaud de Saint-Roman.
Ah, et c'est en situation.
Ouais. Et alors, le texte que j'ai choisi est un peu antérieur à la guerre, et il avait reçu le prix Renaudot en 1936 pour ce roman, l'année du triomphe du Fonds populaire. Il s'agit d'un roman de 500 pages, Les beaux quartiers.
Tout le monde
connaît.
Deuxième
tome du cycle romanesque Le monde réel. Alors, je vais un peu résumer l'œuvre pour les experts, exactement dans les mêmes termes que j'avais fait pour les faussaires, bien sûr. Les beaux quartiers, ce sont d'abord ceux d'une petite ville française imaginaire, mais plus vraie que nature, selon le fameux principe d'écriture d'Aragon, le mentir vrai. La ville haute opposée à la ville basse, avec sa chocolaterie, ses ouvriers italiens en 1912 et 13.
C'est Charlie et la chocolaterie.
Presque. Très bonne piste. Puis les beaux quartiers seront ceux de Paris, et là encore opposés aux bas-fonds et aux usines. Nous avons deux héros, deux frères, les deux fils du maire de la petite ville. Edmond, l'aîné, qui montera à Paris le premier pour faire sa médecine, mais il fera surtout des dettes de jeu et des folies pour une femme. Et le cadet, Armand, je vais pas trop vite, hein. Ça va?
Ils prennent des notes comme des fous.
Très bien. Alors, je continue. Le cadet Armand, qui se tourne d'abord vers la religion, puis la poésie, et enfin la conscience politique. Plusieurs styles se mélangent dans le livre, 19e siècle, mais jusqu'au réalisme socialiste, selon la terminologie, je cite Aragon, de nos camarades soviétiques. Je crois que c'était un vrai défi pour les faussaires de contrefaire un auteur qui est le maître du mentir vrai. Alors, plus spécifiquement, ambiance du début.
Oui.
Comme toujours, Aragon commence par présenter le cadre dans lequel vont vivre ses personnages. C'est la rapide description d'une petite ville française, un soir d'été où il fait très chaud. C'est noté. Histoire de planter en quelques lignes et une image littéraire forte, un décor humain. Voilà pour le début.
Et la fin, Eva?
La fin. Alors, un peu avant les dernières phrases, Armand, après avoir erré plusieurs jours dans Paris et le Valois, épuisé, affamé, s'est fait embaucher à l'usine sans se rendre compte qu'il y avait la grève. Quand il le comprend, il se dirige aussitôt vers la maison des syndicats. Les syndicalistes qui commençaient à perdre espoir se réjouissent qu'un jaune change de camp et vient embrasser leur cause. Alors dans la scène finale qu'il fallait réécrire, un vieux militant, pur et dur, là encore plus vrai que nature, brillamment croqué, mais dont on ne connaîtra pas le nom, donc c'est juste un « il », dans un geste grandiloquent, il va s'adresser à ses amis ouvriers pour leur remonter le moral.
Voilà, une petite question, Lucas, Patrice, non ? Tout est clair.
Très, très clair.
Le cas.
Non, non, c'est la fin qui doit être brillamment croquée, donc on va voir si nos amis ont croqué brillamment.
Alors, Odile Conseil, Jacques Vallée, Patrick Beignet sont tous les trois très cultivés. Ils sont capables d'écrire un pastiche de quelques lignes d'Aragon. Lucas Fournier, Patrice Caumont sont également très cultivés. Ils sont capables de reconnaître les vraies phrases d'Aragon et de rendre à chacun ce qu'il a écrit. Ils sont capables, on verra d'ailleurs. Quant à vous, dans la salle, ne croyez pas que ce soit si facile pour vous non plus. Je vous demanderai votre avis. Donc soyez très attentifs et je vous demanderai où se trouve Aragon dans les textes qui vous seront lus. Alors les textes, les voici. Il y a donc les trois pastiches et le vrai texte d'Aragon. Je mélange, je distribue au hasard pour lecture. Prenez chacun un texte. Jacques Vallée, Odile Conseil, Patrick, vous m'en laissez un. Vous vous cachez un petit peu du regard des experts. Ça va ? Voilà. Jacques Vallée, vous êtes prêt à faire la première lecture ?
Oui. Le début.
Oui.
Le soir venu, la chaleur accumulée pesait sur la place de cette ville française avec ses jardins, ses statues, ses terrasses. Les garçons buvaient et les jeunes filles riaient. On ne dormirait pas car le ciel trop bleu chantait comme un vers d'Alfred de Musset.
Oh, c'est beau, hein ? Il n'y a pas de réaction dans la salle, non ? Ça ne vous plaît pas ? La fin.
Dans le silence retrouvé de la grande ville, il s'était levé, lentement, et pareil aux tribuns d'autrefois, à ceux qui avaient connu l'Empire et la Commune, il étendit son bras vers l'avenir. Avec des mots très simples, il dit à ses camarades la beauté de leur combat, et la foule pleurant presque se rafraîchissait de ses paroles, « Demain, on allait vivre !»
Voilà, alors, beau texte hein. Maintenant, de qui est ce texte ? Alors, nos experts, Lucas Fournier, une première réflexion.
La première réflexion, c'est que c'est plutôt meilleur que du Aragon habituel.
Ça.
Il y a un souffle épique et poétique, évidemment, qui n'appartient ici qu'à un seul présent à cette table, qui est notre ami le poète, qu'on a senti d'ailleurs très ému de lire son propre texte.
Ah.
Alors... Évidemment, il a agrémenté l'ensemble de ses connaissances littéraires, une référence à Monterland dès le début du texte aussi, d'un auteur de l'époque.
Ouais. Mais où sentez-vous Monterland, là, pardon ? Dans quel terme sentez-vous Monterland ?
Les jeunes filles de Monterland, c'est ce petit clin d'œil, évidemment, qui nous a donné dès la première
les
ligne.
Les jeunes filles riaient. Oh.
Les jeunes filles riaient, c'est très Monterland.
Oui, les jeunes filles riaient. Bah, ça, c'est Monterland, je suis désolé.
Oui,
personne d'autre que Monterland aurait écrit « Les jeunes filles riaient ».
Non, mais il y a aussi les petits garçons qui sont derrière les platanes aussi.
Ça, c'est Jean Cocteau.
C'est Monterland. Voilà.
Alors, pour Patrice Caumont, première impression
ce n'est pas Aragon.
Non.
Dont mon camarade expert, mais il est stagiaire, a commencé à dire du mal, alors qu'il faut quand même respecter Aragon.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Bah oui, il nous faut... Donc surtout la poésie, hein, parce que les romans, bon... Mais bon, la poésie, c'est exceptionnel. C'est un des plus grands poètes français. D'ailleurs, Jean Ferrat l'a dit. Donc,
revenons au sujet, c'est
revenons
pas...
au texte.
Oui.
Le ciel, la chaleur. Choisir l'adjectif bleu dans le début du texte pour symboliser cette chaleur qui ne monte pas ni ne descend, qui est en suspens, enfin bon... Et Alfred de Musset, alors là, effectivement, seul Jacques Vallée
connaît
n'a
Alfred
aucune
de
notion
Musset.
De la chaleur. c'est bleu pour lui, la chaleur. C'est bleu. Le rouge, il ne sait pas. Le bleu, voilà. Et alors, la fin effectivement, c'est Jaurès. Le bras tendu, le camarade, le front populaire, mais qui n'a pas de sueur au front. Et donc, c'est plus un théâtre du front populaire. On dirait une mauvaise traduction du premier Maïakovski. Et comme Jacques Vallée adore Maïakovski,
voilà.
C'est possible.
Bon, c'est une première impression.
Ah, mais c'est pas Aragon du tout.
D'accord.
On ne reviendra jamais là-dessus.
Alors, deuxième lecture, parodie le conseil. De qui est le texte qu'elle va nous lire ?
Le crépuscule nappait de violine les toits de la ville haute, brûlants encore. En bas, c'était le chaudron de l'enfer. On avait sorti les chaises sur le trottoir. On espérait en soupirant un peu de fraîcheur. La faim ? Oui. Camarades !
Il y en a un qui a copié.
Ah, bien joué, oui. Ah, oui.
Il y en a encore. Oui. Camarades,
oui.
Il grimpa sur l'estrade. La grève avait creusé un peu plus les rides et blanchi la moustache, mais ferme était le poing qu'il brandit bien haut. Camarades, lança-t-il en posant solennellement son autre main sur l'épaule d'Armand, notre combat continue.
Bon, alors, il y a eu deux camarades, oui, Patrice Comon, vous avez ri.
Ben parce que, surtout à la fin, on essaie de reconstituer la scène. J'ai un poing levé,
oui.
Ferme. Je me gratte le coude, puis j'ai une autre main, on ne sait pas d'où elle vient, la troisième, qui est sur l'épaule d'Armand.
Oui.
Et voilà.
Donc, Et alors
ça ne tient pas. Par contre,
c'est quand même un terme qu'il employait.
Par contre, mais c'est une satire. La fin n'est pas du niveau du début qui était une pure merveille de style. Alors ça,
ah oui.
Ça coulait. On a senti la chaleur. Et là, la chaleur, elle n'est pas bleue, mon cher Jacques Vallée. Elle est nappée de violine. Et ça, c'est formidable.
Ouais.
Non mais on en transpire déjà, nappé de violine.
Et c'est formidable, et c'est qui alors?
C'est assez féminin. Donc c'est peut-être Patrick Beignet. attendez, qui sait tromper l'ennemi et qui a pris un style un peu plus féminin pour le nappé de violine, oui.
Bien, pourquoi pas, Lucas Fournier,
c'est
votre
très
avis
féminin. Ça peut être Odile.
C'est un texte qui est écrit directement en français. Par un auteur français,
oui.
Qui est soit un homme, soit une femme. Nappé de violine, évidemment, c'était extrêmement élégant. Il y a le chaudron de l'enfer. Ça fait davantage titre de l'équipe Paris-Roubaix, quoi.
Et alors
et camarade, le point levé, c'est le peloton qui franchit, évidemment, à Roubaix en levant le bras. Alors, imaginons qui a pu assister à Paris-Roubaix à l'époque. Alors, il y a Aragon, qui était chroniqueur dans l'équipe, comme chacun sait, et Odile, qui, petite fille, applaudissait sur le passage des coureurs. D'ailleurs, elle a mis la tenue qu'elle portait ce jour-là, rouge à pois blanc, le maillot du meilleur grimpeur. Donc, je pense, non pas pour des raisons de féminitude... Et j'apprécie aussi la beauté du texte, mais plutôt compte tenu du contexte politico-sportif, qu'il s'agit d'un texte d'Odile Conseil.
Bon, on peut s'argumenter tout ça pour vous deux. Bah oui, oui. Troisième lecteur, Patrick Beignet.
Le début, c'était la magie du soir. La sombre silhouette de la ville haute se dressait, dominante et silencieuse, tandis que le peuple coloré s'agglutinait dans les rues et les cafés de la ville basse, écrasé de chaleur. La fin, l'homme à la casquette bleue avança le poing levé. Le visage buriné s'éclaira quand il lança triomphalement « Camarades, celui-là nous rejoint parce que ceux d'en face n'ont plus le moral. Camarades, la grève continue !»
Donc voilà le retour du camarade. Hein.
Brillamment croqué.
Oui. Bon. Qui veut parler en premier ? Lucas ?
J'ai peur de dire du mal de mes camarades, donc ça m'ennuie beaucoup. C'était la magie du soir. Bon.
Oui. C'est beau.
C'est un cliché magnifique. Oui, il y a un cliché au début, un cliché à la fin, le visage buriné. Donc oui. Il fallait oser quand même. Alors, le peuple coloré, là aussi...
On peut plus le dire.
Écrasé de chaleur, enfin, rien ne manque.
Et alors ?
Donc c'est tellement mauvais que ça ne peut pas être d'un de nos trois camarades. Et malheureusement, ça confirme mon propos initial, ça ne peut être que d'un très grand poète français qui est un exécrable prosateur.
Voilà. Donc Louis Aragon, Patrice Comon ?
Non, je crois que mon camarade exagère. Il y a quelque chose qui est un petit peu... bizarre et qui fait penser qu'effectivement là, c'est l'œuvre d'un faussaire qui a bien écouté le texte sur la ville haute et la ville basse et qui sent le besoin de préciser que la ville haute est en position dominante. Que je pense que Aragon, qui était quand même pas une lumière, on le sait, mais qui avait pas fait non plus d'études en astrophysique, mais enfin quand même, en général, par rapport à la ville basse, si vous voulez, la ville haute serait plutôt en position dominante. Donc là, je crois que là, il y a eu vraiment une faiblesse totale du faussaire. Donc ce n'est pas Aragon non plus.
Alors, après, c'est de qui?
Oui. Ben oui. Alors, après, c'est la casquette bleue.
Ouais.
Ah oui, là, évidemment.
Donc, on revient à la casquette bleue. Donc, le bleu, c'est Jacques Vallée. Donc, Jacques Vallée a écrit deux textes. Et Aragon n'a rien foutu.
Bien. Je vais vous lire le quatrième texte.
Ah.
Dans une petite ville française, une rivière se meurt de chaud au-dessus d'un boulevard où, vers le soir, des hommes jouent aux boules. Et la fin, il jette violemment sa casquette sur la table et il a les yeux brillants. Sa voix est comme une vieille porte rouillée. « Camarade, dit-il, camarade, vous voyez bien qu'il ne faut jamais désespérer. » Ah.
Ah, oui. Ça, c'est Odile Conseil. Surtout pour ce magnifique texte sur la rivière.
La rivière qui... se meurt de chaud.
Ah, voilà. Ah, oui. Ça, c'est très sympathique. Ça, c'est une écriture jeune, une écriture dynamique. Il fait chaud. Ben, c'est la rivière qui meurt de chaud. Eh ben voilà. Donc, la rivière transpire, puisque... Elle est liquide. Donc, la rivière meurt de chaud, c'est une trouvaille poétique. Alors, où c'est Elsa qui lui a soufflé? Mais est-ce qu'ils étaient déjà ensemble en 36? Ça, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Mais c'est, là, la rivière qui meurt de chaud, c'est très jolie trouvaille. Et puis, alors, après, elle dit carrément que l'ouvrier a une voix de gond.
C'est ça, oui.
La voix rouillée de la porte.
La voix comme une vieille porte rouillée.
Donc, insulter quand même le vieil ouvrier. Oh. En 36.
Oh non, ça c'est... Non.
C'est dur.
Bon, donc vous aurez un deuxième tour, mais pour le moment, vous vous penchez
Odile.
Pour Odile, Patrice Caumont, et Lucas Fournier.
C'est quelqu'un qui ne joue pas aux boules parce que on nous explique qu'il fait très chaud. Et la chose que font les gens quand il fait très chaud, forcément, c'est de jouer aux boules. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou alors il faut vraiment être habitué à des climats rudes et ne pas connaître la vraie chaleur. Donc il faut savoir, parmi ceux qui auraient pu écrire ce texte, les plus nordistes d'entre nous, Patrick Beignet est breton, donc il n'y a pas de grosse chaleur, il pleut, on peut jouer aux boules sans difficulté. La vieille porte rouillée, il y a peut-être une référence apollinérienne. Là. Je connais gens de toutes sortes, leurs yeux sont des feux mal éteints, leurs cœurs battent comme leurs portes. Alors cette petite réminiscence pourrait être de Patrick Beignet.
Alors, on va, vous savez quoi? On va refaire un deuxième tour de lecture. Et puis je demanderai l'avis de la salle aussi. D'accord? Préparez-vous, il faut assumer. Hein. Jacques Vallée.
Le soir venu, la chaleur accumulée pesait sur la place de cette ville française avec ses jardins, ses statues, ses terrasses. Les garçons buvaient, les jeunes filles riaient. On ne dormirait pas car le ciel trop bleu chantait comme un vers d'Alfred de Musset.
On ne s'en lasse pas.
La fin. Dans le silence retrouvé de la grande ville, il s'était levé lentement et, pareil aux tribuns d'autrefois, à ceux qui avaient connu l'Empire et la Commune, il étendit son bras vers l'avenir avec des mots très simples. Il dit à ses camarades la beauté de leur combat et la foule pleurant presque se rafraîchissait de ses paroles. Demain, on allait vivre.
Alors, maintenant, il faut vous prononcer. Il faut dire un nom.
Aragon.
Aragon pour Patrice Caumont.
Oui, parce qu'à cause de... qui ont connu l'Empire et la Commune. À la table, il n'y a plus personne qui se rappelle...
S'il y a ici...
qu'il y avait l'Empire avant la Commune.
Aragon, soit.
Aragon.
Pour l'expert Lucas Fournier.
Mais j'avais dit tout à l'heure Jacques Vallée, je maintiens, puisque en réécoutant le texte, Jacques a connu la Commune, l'Empire.
Pas l'Empire.
Non, indéniablement, c'est un texte de Jacques Vallée.
Très joli texte d'Aragon.
Très joli texte de Jacques, le soir venu. Bon. Texte de Jacques Vallée.
Qu'est-ce que vous en pensez dans la salle? On va essayer de faire de façon très technique. Si vous pensez que c'est du Aragon, vous criez oui.
Oui.
Oui, pas plus que ça. Hein.
Je n'ai pas convaincu.
Et qui pense non?
Non.
Qui ne se prononce pas? Vous. Vous êtes très courageux, monsieur. Bon, alors, une petite frange qui vous suit, Patrice Caumont, et qui serait favorable à Louis Aragon pour cette lecture. Odile Conseil nous relit le texte qu'elle nous avait lu.
Le crépuscule nappait de violines les toits de la ville haute, brûlants encore. En bas, c'était le chaudron de l'enfer. On avait sorti les chaises sur le trottoir. On espérait en soupirant un peu de fraîcheur. Camarade. Il grimpa sur l'estrade. La grève avait creusé un peu plus les rides et blanchi la moustache, mais ferme était le poing qu'il brandit bien haut. « Camarade !» lança-t-il en posant solennellement son autre main sur l'épaule d'Armand. « Notre combat continue. »
Bien, alors ce texte délicieux, Patrice Caumont.
Oui, nappé de violine.
Nappé de violine. Alors vous aviez pris une option Patrick Beignet tout à l'heure.
Eh bien, je reste sur Patrick Beignet.
Oui.
Magnifique.
Et Lucas Fournier, qu'est-ce qu'il en pense maintenant?
Moi, j'avais dit Odile tout à l'heure.
Oui.
Dans la fin, cette phrase est magnifique. Et ferme était le poing qu'il brandit bien haut.
Oui, c'est très beau, ça. Ah, oui, c'est inversion, beau. Oui.
Dans le pitch, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Deva, tout y est. Hein, et tout a été respecté. Donc, c'est un bon élève.
Oui.
Donc, c'est une jeune fille méritante du nord de la France. Qui est là, avec ses petites cerises aux oreilles. Et qui accueille l'homme au poing... brandy. Donc c'est Odile Conseil.
Bon, pourquoi pas. Dans la salle, est-ce que quelqu'un pense que ce texte qui vient d'être lu est de Aragon?
Oui.
Ah, c'est encore plus faible que tout à l'heure. Hein. Vous pensez que c'est d'Odile Conseil?
Oui.
Vous pensez que c'est de Patrick Beignet? Ah non, alors là, il n'y a personne pour vous, Patrick, sur cette lecture. Est-ce que vous pourriez penser à Jacques Vallée? Oh, très peu, très peu. Donc ça se joue quand même entre Aragon et Odile, là, hein, pour la salle. Troisième lecture, Patrick Beignet.
C'était la magie du soir. La sombre silhouette de la ville haute se dressait, dominante et silencieuse, tandis que le peuple coloré s'agglutinait dans les rues et les cafés de la ville basse, écrasé de chaleur. Fin du texte.
Pour moi, ça fait rire, hein, ce texte. L'homme, je sais pas si Aragon voulait faire rire, vraiment. Oui, Patrick.
L'homme à la casquette bleue avança le poing levé. Le visage buriné s'éclaira quand il lança triomphalement « Camarade, celui-là nous rejoint parce que ceux d'en face n'ont plus le moral. Camarade, la grève continue. »
Voilà. Alors, Patrice, comment vous ne vous étiez pas vraiment prononcé sur ce texte tout à l'heure?
Non.
Oui. Et alors maintenant?
Il est très intéressant. Je pense que c'est Jacques Vallée.
À cause de... Argument. Argument littéraire.
Oui, tout à l'heure.
C'est plus difficile. Hein.
Bon, alors, vous avez été frappé par la prononciation, la sombre silhouette. Il y a une phrase extravagante qui est impossible à prononcer si on a un léger accent auvergnat. Ce qui confirme donc que le texte est bien d'Aragon, puisqu'il n'est pas du tout auvergnat.
J'ai parlé d'arguments littéraires.
Écoutez. Donc le texte est de Louis Aragon, ou plutôt de Arnaud de Saint-Romand, comme nous l'a précisé Eva.
Son pseudonyme à l'époque.
Oui.
Bon, donc nous avons un Jacques Vallée pour Patrice Caumont.
Oui, et puis la casquette bleue.
Et puis en plus, c'est très construit, parce qu'au début, il y a la ville haute qui domine.
Oui.
La ville basse, oui. Et à la fin, il y a l'ouvrier qui tend le poing, mais qui pose l'épaule sur le petit Armand, qui était tout petit, qui était un pauvre gars, qui n'avait pas de papa, qui n'avait pas de maman, qui s'appelait Armand, tout le monde connaît l'histoire. Donc voilà. Ça, c'est Jacques Vallée. C'était un pauvre gars qui s'appelait Armand. Tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est bien Jacques Vallée pour des trucs très littéraires.
Voilà. Bon, d'accord. Donc, qui pense, comme Lucas Fournier, qu'il s'agit du texte d'Aragon, vous dites oui ou pas? Ah, pas mal. Hein. Pour le moment, c'est le texte qui sort, hein, sur Aragon. Qui pense que c'est du Jacques Vallée? Ah, pas beaucoup. Hein. Ah non, mais on a un Aragon très très solide là qui se profile. Alors, je vous lis le dernier texte. Dans une petite ville française, une rivière se meurt de chaud au-dessus d'un boulevard. Où vers le soir, des hommes jouent aux boules. Et la fin ? Il jette violemment sa casquette sur la table et il a les yeux brillants. Sa voix est comme une vieille porte rouillée. « Camarade, dit-il, camarade, vous voyez bien qu'il ne faut jamais désespérer. » Moi, je trouve très beau ce texte.
Eh bien, puisque je l'attribue à Odile Conseil.
Ben voilà.
Il y a la voix rouillée, là, qui est un petit peu dure, mais sinon, c'est une grande promesse. Et puis surtout, cette merveille magnifique de la rivière qui a un petit coup de chaud, là.
Et pour Lucas Fournier ?
Je l'avais attribué à Patrick Beignet, je confirme mon choix.
Oui.
C'est joli le début. Dans une petite ville française.
Oui.
On dirait vraiment à quelqu'un qui connaît bien les auteurs du Hamel, les gens comme ça. Le Chardon. Voilà. Et y a du Chardon chez notre ami Patrick Beignet.
Bon. Qui pense dans la salle que j'ai lu du Aragon ?
Non. Bah, si, elle a lu plein de livres d'Aragon. Hein.
Oui, j'ai d'ailleurs un très gros fait pour Aurélien. Qui pense qu'il s'agit d'un texte d'Odile Conseil ?
Oui.
Pas beaucoup, hein ? De Patrick Beignet ?
Oui.
Il y en a beaucoup qui ne se prononcent pas, il me semble. Hein. Là, on n'est pas sûr hein, sur ce texte-là. Oh là là ! Mais c'est un jeu difficile pour l'amour propre, si vous saviez. Ah oui.
Non, parce que le brief était très précis, donc ils ont tous bien suivi. Et Aragon le premier.
Et pourtant, il n'était pas en studio avec nous.
Il a
hein.
bien suivi le script.
Il n'est pas loin, là.
Alors, moi, je propose qu'on découvre le texte d'Aragon. Celui qu'il a entre les mains va le lire. Et ensuite, on reprendra les lectures dans l'ordre. On dira qui l'a écrit. Alors, je suis navrée hein, pour la plupart d'entre vous, parce que c'est moi qui ai lu le texte de Louis Aragon. Eh oui. Vous étiez 2-3 hein, à avoir gagné. Alors, qui que vous soyez, je vous dis bravo. Et je relis ce texte que je trouve très beau, personnellement. Dans une petite ville française, une rivière se meurt de chaud au-dessus d'un boulevard, où vers le soir, des hommes jouent aux boules. C'est beau, cette rivière qui se meurt de chaud. D'ailleurs, vous l'aviez dit, Patrice Comon. Simplement,
beau,
vous l'aviez attribué à Odile.
Parce que je préfère Odile qu'Aragon.
Et la fin, il jette violemment sa casquette sur la table et il a les yeux brillants. Sa voix est comme une vieille porte rouillée, ça c'est vrai. Camarade, dit-il, camarade, vous voyez bien qu'il ne faut jamais désespérer. Il y avait quand même ce côté, il ne faut jamais désespérer à la fin du message d'Aragon.
Ça faisait trop bien.
C'est Malraux ça, c'est pas pareil.
Non, puis en plus, une rivière qui est plus haute
que
le boulevard, c'est un canal.
On reprend les lectures dans l'ordre, Jacques Vallée.
On n'est pas en Belgique.
Jacques Vallée, vous nous lisez le texte que vous avez sous les yeux. Après, on dira de qui il est.
Le soir venu, la chaleur accumulée pesait sur la place de cette ville française avec ses jardins, ses statues, ses terrasses. Les garçons buvaient, les jeunes filles riaient. On ne dormirait pas car le ciel trop bleu chantait comme un vers d'Alfred de Musset. Et la fin, dans le silence retrouvé de la grande ville, il s'était levé lentement et pareil aux tribuns d'autrefois, à ceux qui avaient connu l'Empire et la Commune, il étendit son bras vers l'avenir. Avec des mots très simples, il dit à ses camarades la beauté de leur combat et la foule, pleurant, presque se rafraîchissait de ses paroles. Demain, on allait vivre.
C'est un très beau texte qui vous a été attribué, Jacques Vallée, par Lucas Fournier, qui a été attribué à Aragon par Patrice Comon. De qui est-il ?
Patrick Beignet.
Ah. Certains y avaient pensé dans la salle, non ?
Oui.
Pas du tout, en fait. Ensuite, Odile Conseil.
Le crépuscule nappait de violines, les toits de la ville haute brûlants encore. En bas, c'était le chaudron de l'enfer. On avait sorti les chaises sur le trottoir. On espérait en soupirant un peu de fraîcheur. Camarade ! Il grimpa sur l'estrade. La grève avait creusé un peu plus les rides et blanchi la moustache, mais ferme était le poing qu'il brandit bien haut. « Camarade !» lança-t-il solennellement, en posant son autre main sur l'épaule d'Armand, « notre combat continue. »
Alors, ce texte vous a été attribué, Odile Conseil, par Lucas Fournier, a été attribué à Patrick Beignet par Patrice Comon. De qui est-il ?
Eh bien, Lucas Fournier avait raison.
C'est dû, Odile Conseil. Bravo dans la salle. Aussi. Notre ami Lucas Fournier marque un point, c'est bien. Patrice Comment, un troisième zéro, c'est un peu moins bien, mais bon, le jeu est difficile.
Est-ce que je peux dire solennellement à Patrice Comment que je n'écrirai jamais que quoi que ce soit est nappé de violine?
Faites bien de vous défendre. Alors, dernière lecture, Patrick Beignet.
C'était la magie du soir. La sombre silhouette de la ville haute se dressait dominante et silencieuse, tandis que le peuple coloré s'agglutinait dans les rues et les cafés de la ville basse, écrasé de chaleur. L'homme à la casquette bleue avança le poing levé, le visage buriné s'éclaira quand il lança triomphalement « Camarade, celui-là nous rejoint parce que ceux d'en face n'ont plus le moral. Camarade, la grève continue. »
Alors, ça a été attribué à Aragon par Lucas, qui bien sûr s'est trompé. Ça a été attribué à Jacques Vallée par Patrice Comment. C'est de qui ?
Mais c'est de Jacques Vallée, bien sûr.
Mais voilà. Ah, Patrice. Vous aviez raison, la casquette bleue, le visage buriné, c'était du Jacques Vallée. Voilà, mais moi je voudrais dire bravo aux faussaires qui ont fait quand même de très très jolis textes. Patrice Minerve et Le Tellier, vous nous rejoignez pour vos exercices de style. Vous avez donc eu un certain temps pour écrire vos variations sur le texte de Max Aube. On va le réécouter, ce texte, Lucas Fournier.
Si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis un homme perdu et je devais me lever à 7 heures. Il était 2 heures et ils ne partaient pas. Ils étaient vautrés dans les fauteuils, béats, et Dieu sait que je n'avais pas pu faire autrement que de les inviter à dîner. Ils jacassaient comme des pies, se relançaient l'un à l'autre la conversation et je devais porter verre de cognac et autre tasse de café. Soudain, il lui vint à l'idée, à elle, que nous pourrions prendre un peu plus tard une soupe à l'ail. Ma cuisinière est très réputée. Je n'en pouvais plus. Bien entendu, j'aurais pu agir comme un grossier et leur dire de s'en aller, mais ce n'est pas dans ma manière. Ma mère, qui fut veuve très jeune, m'a inculqué les meilleurs principes. Je n'avais qu'une seule envie, dormir, et le reste m'apportait peu. Je n'avais pourtant pas sommeil, je pensais seulement à l'envie que j'en aurais le lendemain. Mon éducation m'empêchait de simuler ces bâillements qui sont le moyen habituel aux gens ordinaires. Et vous par-ci, et vous par-là, et ça, et le reste, le gin rummy, les échecs, le poker, Ginger Rogers, Lana Turner. Ah, je déteste le cinéma. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et vous, et vous, et vous ? Et le président ? Et le ministre ? Et l'opéra ? Je déteste l'opéra. Et le cachemire anglais, et le gazon, les choux. Et ce poison qui ressemblait tellement au cognac.
Bon, on s'est remis le texte en mémoire. Alors, on peut peut-être les encourager un peu, comme c'est pas facile, hein, ce que vous avez fait.
Applaudissez avant.
Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une sécurité. Alors, Hervé Le Tellier, vous aviez tiré « Histoire russe à rebondissement ».
Oui. Ça va rebondir.
Voilà.
Chapitre 1.
Ah, c'est un roman.
Bah, bien sûr.
On aurait pu être dans le théâtre.
Oui, oui, non, c'est un roman. Oui. Vladimir Ivanovitch Prigojine regarda les yeux là la fine neige de septembre qui tombait sur la plaine du Don paisible. Là-bas, sur l'Oural naissant, les collines grisaillaient, une troïka apparut au bout du chemin de terre. Vladimir Ivanovitch se tourna vers sa vieille domestique Olga. « Mon Dieu, Olga, c'est la troïka des Oblomov. Ils viennent par ici, mais qui les a invités ?»« C'est vous, Vladimir Ivanovitch, rappelez-vous, soupira la vieille Olga. Vous n'aviez pas pu faire autrement. »« C'est vrai, mais quelle heure est-il ? Bon, j'ai moi, il est 10 heures. Si je n'ai pas mis 8 heures de sommeil, je suis un homme perdu. Bon, j'ai moi. » Vladimir Ivanovitch s'effondra dans un fauteuil. « Je vais préparer des chashliks au paprika, » dit la vieille Olga, qui tenait déjà les chashliks dans une main et le paprika dans l'autre. Chapitre 2.
Ah, ça rebondit très vite.
2 heures sonnèrent à la vieille horloge de cerisier que Vladimir Ivanovitch avait héritée de sa tante Natalia et qu'elle tenait elle-même de sa propre tante Nina. « N'est-il pas 2 heures ?» dit Vladimir Ivanovitch en regardant d'un œil insistant l'horloge. « Si, c'est fou !» s'esclaffa Anna Petrovna Oblomov en buvant un verre de cognac. « Quelle belle horloge vous avez là! C'est du cerisier, n'est-ce pas ?»«
Oui, dit Vladimir Ivanovitch. Et c'est de la qualité russe, elle n'avance pas, il est vraiment 2 heures.
Avez-vous encore du café et du cognac ?» dit Boris Oblomov. « Ah, le café, voilà bien quelque chose qu'ils ne savent pas faire convenablement à Moscou. Et votre perle de domestique, Olga, pensez-vous qu'elle pourrait nous faire son célèbre borscht à l'ail ?»
Vladimir Ivanovitch soupira. Il frappa dans ses mains. Olga apparut, elle tenait 2 gousses d'ail dans une main et la soupière dans l'autre. Chapitre 3. 3 heures sonnèrent à l'horloge de cerisier. Vladimir Ivanovitch regarda sur la cheminée de faïence d'Ukraine la photographie de sa mère, Maria Ivanovna, posant devant l'isba, du temps où il possédait encore la cerisée. « Et comment va monsieur votre père ?» demanda Anna Petrovna d'un ton enjoué et d'une voix un peu pâteuse.
« Il est mort voici 30 ans, répondit Vladimir Ivanovitch. « Ma mère fut veuve très jeune, mais elle m'inculqua les meilleurs principes, elle. »«
Il reste du cognac ?» demanda Boris Oblomov. La vieille Olga surgit, la bouteille de cognac dans une main et la cafetière dans l'autre.
Chapitre 4.
4 heures du matin, seule la neige dormait. Vladimir Ivanovitch retint un bâillement. Il songea à la béatitude du moujik qui n'aurait pas hésité, lui, même à péter pour signifier sa lassitude. Mais son éducation grand russe lui interdisait ce genre de moyens des gens ordinaires.
« Vous savez ce qui serait formidable, Vladimir, dit Oblomov, ça serait une petite partie d'échecs, s'il vous reste du cognac. Je viens de découvrir la partie formidable Ginger Rogerovitch contre Lana Tornerovitch. Je vais vous montrer l'ouverture. »
« Je déteste les ouvertures, » songea Vladimir Ivanovitch. La vieille Olga entra dans la pièce, l'échiquier d'ébène et d'ivoire dans une main et la boîte de pièces dans l'autre.
Chapitre 5. 5 heures du matin sonnèrent à l'horloge de cerisier.
« Je suis allé chez le ministre, voici 3 jours !» chanta à tue-tête Anna Petrovna Oblomov. « Et après, on est allé à l'opéra. »«
Pardonnez-la, Vladimir, » dit Oblomov, « ma femme ne supporte pas le café. »
« Est-ce qu'il reste un fond de cognac ?»
La vieille Olga remonta de la cuisine, elle tenait à la main la bouteille de Morora et une pelle encore terreuse.
« J'ai fait les 2 trous, Vladimir Ivanovitch, » fit la vieille Olga.
Ça a été écrit devant vous et en suivant le texte au plus près en plus.
Et ça rebondit.
Ça rebondit. Patrice Minet, vous aviez tiré le style « L'homme qui ne trouvait pas ses mots », c'est ça ?
Oui, c'est cela.
Voilà. Ça s'est bien passé ?
Oh, merveilleusement.
Ouais.
Alors accrochez-vous, je vais avoir besoin de place. Tout d'abord, le pitre et l'auteur. Le trip, l'intitulé. Enfin, la présente station. En 2 mots, il s'agit que, comment dire, le pitre, oui, écrit comment s'appelle-t-il déjà ? Ah, j'ai son nom sur le bout de la mangue. Mais avant le point du jour, voilà, avant midi, bien avant, vous voyez qui ? Merci. La nuit avait été trop courte, et comprenez-moi bien, je n'étais pas de mauvais poil. Non, ni à poil non plus, non. Du tout, je dors en pyjama, mais ça n'a rien à voir. Je devais me vêler, car ces vaches me levaient. J'ai un réveil Martin. Et il y avait été tard. Il était très très tard. Il avait mangé mes chouis, mes anchois. Il avait mangé chez moi. Et je ne sais pas si je me fais bien comprendre, avec leur pouf, dans les fauteuils. Et il buvait ma fille en pagne, ma fine champagne, qu'avait cafeté. Et il se saoulait. Non. Si. Il se saoulait, oui, mais 2 mots. Et la voilà qui veut saler ma poule. Oui. Une soupe à l'ail. Oui, c'est la même chose, hein. Ne pichetons pas. Mais pétard, j'ai fusé. Mais j'ai refusé. Car ma bonne est bien en chair. Non, pas du tout. J'aime bien la bonne chair, mais enfin, levure, voleur, buleur. Alors là... Non, pas mardi, pas mercredi, jeudi. Jeudi ni, jeudi nez, jeudi ni, jeudi, c'est niette. Oui, oui, je sais ce que vous allez me répondre et nous sommes d'accord. Et d'autre part. Alors là, à la cantonade, je dis silence ou je fais évacuer la salle. Impossible, non, non. Mon éducucu maloprie me l'interdisait. Ma mère me lut Tintin. Ma mère me lut Tintin interdit. Mais moi, je n'avais qu'une seule envie, dormir. Et la veste que je portais bleue. Et je m'en fous, je m'en ch'tif. Ça m'est égal. Et dormir jusqu'au petit lapin, au petit malin. Jusqu'à l'aube. Voilà. Max aube. Ah. Arrêtez les mots ou je fais évacuer la page. Non, non, non. Croyez pas que je balais à m'en décroter la mâchoire. À m'asseoir. La mâchoire. Mère, c'est dément, quoi. Certainement pas. Mon éducucu maloprie me l'interdisait. Comme je l'ai dit plus haut. Et vous, patate farcie, et vous, papote par là. Et ça, et le reste. Et le gin est à boire en anglais. Le jeu roumain. Le gin roumain. Voilà. Et l'autre jeu, là, 64 cases et faire l'échelle au Mac. Et la partenaire de Fred Baster. Si. Si, elle danse, la nature même, l'animateur, l'actrice. Ah, je déteste les salles au secours. J'ai peur du noir. Et vous, qu'en pensez-vous? De quoi? Comment de quoi? Il faut suivre. Et le président et le ministre, et pour dire quoi? Qu'on paiera. Allô? Qui ira à l'eau? Paiera? Combien? Et patati et patatra. Et cette gnôle, qui ressemblait à attendez, le vénéneux, le qui ressemblait à mon... Et ce mort noyau qui ressemblait tellement à ma fille en pagne.
Le roman des papous, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée et présentée par Françoise Tressard avec Claude Giovanetti, Pierre Nine, Patrice Klein, Alexandre James, chargé de production Roland Dandalex. Le roman des papous, une soirée de jeux littéraires enregistrée en public au théâtre Jean Villard de Romans-sur-Isère le 20 novembre dernier. Deuxième partie dimanche prochain, d'ici là. Vous pouvez nous retrouver sur franceculture.com pour podcaster les papous du jour, jouer aux homophonies approximatives, consulter les pages livres des papous et vie du club. Au revoir et à tout bientôt.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 novembre 2010. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, suite de cette aventure romanesque, romanaise.